France Culture, il est midi et demi. Tout de suite, le journal Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour Olivia. Confronté à 5 semaines de grève, l'exécutif a fini par préciser le contenu de sa réforme sur les retraites. 2 projets de loi adressés hier soir aux caisses de sécurité sociale viennent graver dans le marbre de la loi non seulement une règle obligeant à prévoir l'équilibre financier du futur système universel par points, mais aussi un âge d'équilibre, le fameux âge pivot. Pas de quoi a priori amadouer donc les syndicats à la veille d'une 5e journée de mobilisation interprofessionnelle.
Et par ailleurs, les grèves se poursuivent aujourd'hui dans de nombreux secteurs, Thomas.
Oui, les transports bien sûr, mais aussi chez les avocats, avec encore des robes noires jetées à terre, des tribunaux bloqués, des audiences renvoyées. Nouvelle illustration ce matin lors de l'audience solennelle de rentrée de la Cour de cassation en présence de la garde des Sceaux, Nicole Belloubet. L'Iran continue de nier catégoriquement ce matin la thèse selon laquelle le Boeing 737 qui s'est écrasé mercredi près de Téhéran aurait été touché par un missile, piste privilégiée depuis hier par plusieurs pays et notamment le Canada, dont plusieurs citoyens ont péri dans la catastrophe. Enfin, invité de la rédaction dans une 20aine de minutes à l'occasion de la convention environnementale, Anne Davidian, chercheuse à la Fondation Européenne Events, spécialiste de la démocratie participative et de l'intelligence collective. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Quelle américaine est-elle? Quelle conscience nationale porte-t-elle? Avec nous, la grande poétesse amérindienne Joy Arjo va nous rejoindre dans la deuxième partie de l'émission.
Merci et à tout à l'heure. Est-ce parce que les manifestations d'hier semblaient lui offrir un peu de répit avec une mobilisation en repli, ou bien plus simplement parce qu'il avait déjà choisi d'assumer pleinement sa réforme face à un front du refus? Toujours est-il que l'exécutif a donc posé les règles de son projet de loi sur les retraites, dans lequel figure comme prévu et noir sur blanc l'âge pivot à 64 ans. L'âge d'équilibre y est mentionné au moins 39 fois. Or, on le sait, cette mesure emblématique cristallise depuis 5 semaines maintenant l'opposition des syndicats, en particulier réformistes, CFDT et UNSA, qui en ont même fait un casus belli. Ou dit autrement, l'heure n'est sans doute pas encore tout à fait à la sortie de crise. Et puis sur la forme à présent, ce projet de loi a donc été adressé dès hier soir aux caisses de sécurité sociale, mais apparemment pas aux partenaires sociaux conviés depuis ce matin à Matignon en réunion bilatérale. Ce qui fait dire d'ailleurs au secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, si on discute de choses qui sont déjà écrites, alors ça ne me ravit pas d'aller faire l'imbécile devant le Premier ministre pour m'apercevoir que ces discussions ne servent à rien. Annabelle Grelier, bonjour.
Eh bien oui,
vous m'entendez Annabelle?
Je vous entends Thomas.
Vous êtes en direct de Matignon. Quelle est l'ambiance sur place donc Annabelle, est entendu que ce gouvernement qui se disait pourtant ouvert à la discussion a visiblement opté pour le passage en force?
Eh bien, heureusement, Thomas, que l'on parle de choses sérieuses ici à Matignon, pas moins que le financement de notre système de retraite, car si c'était une série de divertissements, il n'y aurait déjà plus de spectateurs dans la salle. C'est en effet le même scénario qui se joue ce matin que celui qui se joue depuis des semaines, avec les mêmes dialogues. D'un côté, le patronat, qui unanimement refuse toute idée d'augmentation de cotisation sociale et soutient l'idée de reculer l'âge de la retraite, une évidence pour François Asselin, le représentant des petites et moyennes entreprises.
Est-ce que demain, dans notre pays, il faudra que nous travaillions un peu plus longtemps pour avoir un régime de retraite équilibré? La réponse est sans condition, c'est oui. Faut pas se faire d'illusions. C'est le principe de réalité qui cadre la négociation. Si on veut s'en affranchir, eh bien là, effectivement, on va vers des murs sur lesquels on va tous, entre guillemets, se frotter le museau. Et imaginons que ce projet de réforme n'aille pas au bout, capote. Ben je peux vous dire qu'il faudrait dans très peu de temps se remettre autour de la table. Donc oui, bien évidemment, il faudra travailler plus longtemps. Alors maintenant, est-ce que c'est un âge pivot? Ça, c'est une autre question.
Alors une autre question, l'âge pivot que le gouvernement veut fixer en 2027 à 64 ans assorti d'un bonus-malus, eh bien tous les syndicats sont eux aussi unanimes, ils n'en veulent pas et réclament même un retrait dans les prochaines heures pour pouvoir parler sereinement du financement. Écoutez Laurent Escure, le patron de l'UNSA.
On a évidemment demandé au Premier ministre de retirer du tapis l'âge pivot. Je pense qu'il a compris, comme il a entendu, que notre engagement sur le fait que le compromis d'équilibre devrait être trouvé parallèlement à l'élaboration du projet de loi. Si c'est ce qui se passe dans les jours qui viennent ou dans les heures qui viennent, c'est-à-dire que l'âge pivot soit retiré, je pense qu'on pourra créer les conditions d'un travail permettant un compromis. Et donc j'espère que ce soir, ou très vite derrière, on aura la réponse du Premier ministre.
Une réponse qui ne semble pas venir. Yves Verrier de Force Ouvrière demande alors que l'on fasse une pause dans le calendrier parlementaire. Écoutez Yves Verrier.
Malheureusement, je n'ai pas compris de la part du Premier ministre qu'il s'inscrive dans l'idée de faire une pause. Alors je le dis très clairement, sur l'objet lui-même, qui est celui du projet du gouvernement d'un régime unique par points, nous ne ferons pas non plus de pause quant à notre détermination à faire en sorte d'empêcher que ce projet de régime unique par points voit le jour, parce que nous sommes convaincus, de plus en plus convaincus, qu'il est une erreur.
Et sans surprise, ce matin, Philippe Martinez de la CGT a également demandé le retrait de l'âge pivot, tout comme le fera une nouvelle fois cet après-midi Laurent Berger de la CFDT.
Merci Annabelle Grelier en direct de Matignon. Alors maintenant que le gouvernement a enfin levé le voile sur sa réforme, que prévoit dans le détail son projet de loi décomposé en deux textes distincts et assorti de nombreuses ordonnances? Anne-Laure Jumet, bonjour.
Bonjour.
Outre que le texte précise donc que la nouvelle gouvernance du régime universel définira une façon de parvenir à un âge d'équilibre à 64 ans en 2027, en quoi consistent, Anne-Laure, les principales mesures?
Alors il y a d'abord inscrit noir sur blanc la revalorisation de la rémunération des enseignants et des enseignants-chercheurs. Objectif, leur garantir un même niveau de retraite que des corps équivalents dans la fonction publique. C'est l'article 1 du texte. Pas de chiffrage, en revanche, mais le gouvernement a déjà évoqué une enveloppe de 400-500 millions d'euros par an, et ce, dès 2021. Confirmation aussi dans ce projet de loi que la pension minimum sera fixée à 1000 euros net par mois dès 2022 pour les salariés ayant effectué une carrière complète. Et puis, le texte prévoit des âges d'équilibre individualisés et dérogatoires pour prendre en compte les carrières longues ou la pénibilité.
Et puis on notera également, Anne-Laure, quelques nouveautés.
Oui, sur la pension de reversion, elle sera attribuée à partir de 55 ans et non de 62 ans comme c'était initialement prévu dans le rapport de Levoix. 55 ans, c'est aujourd'hui l'âge d'ouverture des droits à la reversion dans le secteur privé. Et puis la deuxième ouverture faite par le gouvernement concerne les droits familiaux. Les femmes qui ont déjà des trimestres en plus au titre de leurs enfants et qui basculeront dans le nouveau système ne perdront pas leurs droits. Ces trimestres seront convertis en points et donc pris en compte dans le calcul de leur pension.
Merci Anne-Laure Jumet. Alors s'agissant des suites du mouvement à présent, outre la cinquième journée de mobilisation prévue demain, l'intersyndicale a exprimé hier le souhait de faire de mardi prochain une nouvelle journée de grève et de convergence interprofessionnelle. Par ailleurs, des initiatives déclinées sous toutes les formes ont été annoncées pour mercredi et jeudi. Et puis, rappelons que ce vendredi, plusieurs professions restent mobilisées, notamment à travers des blocages de raffineries et de dépôts pétroliers. Côté transport, la SNCF prévoit, elle, 2/3 des TER en circulation et 4 TGV sur 5. Quant à la RATP, la circulation des métros sera également touchée avec plusieurs lignes ouvertes seulement en partie, notamment aux heures de pointe. Enfin, toujours dans cette guerre d'usure, donc avec le gouvernement, les avocats restent eux aussi massivement mobilisés contre la réforme des retraites. Plus gros barreau de France, celui de Paris, a notamment annoncé avoir reconduit sa grève totale jusqu'au 14 janvier inclus, ce qui comprend le renvoi de toutes les audiences, mais également la grève des désignations et des permanences, ainsi que l'annulation des consultations gratuites. Alors mercredi notamment, on se souvient que la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, avait connu une visite mouvementée à Caen, où plusieurs avocats en signe de protestation étaient allés jusqu'à jeter leur robe noire aux pieds de la ministre, un geste fort, symbolique, qui s'est répété encore ce matin à l'occasion cette fois-ci de l'audience solennelle de rentrée de la Cour de cassation en présence de Nicole Belloubet. Florence Thion, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sur place et depuis ce matin, Florence, donc plus d'une centaine d'avocats manifestent à l'intérieur du Palais de justice de Paris.
Oui, effectivement, cette audience solennelle de rentrée a été éclipsée par le mouvement des avocats des barreaux d'Île-de-France. Ils étaient nombreux, plus de 200 rassemblés ce matin dans la salle des pas perdus de l'ancien palais de justice de Paris. Un rassemblement qui a fait écho à celui de mercredi soir à Caen, où vous le disiez, les avocats ont jeté leur robe aux pieds de Nicole Belloubet. Ce matin, la garde des Sceaux n'est pas allée à leur rencontre. Déjà installée au premier rang de la salle de la Cour de cassation, les avocats, eux, se sont allongés sur les dalles de marbre blanc avant de jeter aussi leur robe au sol. Moment de silence, suivi d'une prise de parole de leurs représentants pour rappeler leur opposition au projet de réforme des retraites. Puis des cris scandés, Belloubet, démission. Des cris qui résonnaient une demi-heure plus tard encore à travers les lourdes portes en bois de la très solennelle salle de la Cour de cassation et de son ambiance d'ordinaire si feutrée. Les forces de gendarmerie étaient mobilisées en nombre pour en garder les accès. Dans leur discours officiel, la première présidente de la Cour de cassation, Chantal Arens et le procureur général François Molins sont quant à eux pris acte de la crise de confiance qui existe entre la justice et les citoyens et estimé qu'il était urgent d'agir à ce niveau-là pour remédier à l'incompréhension. 8 groupes de travail y travaillent depuis septembre dernier et ils devraient livrer leurs propositions d'ici le printemps prochain.
Merci Florence Sturm en direct du Palais de justice de Paris. Aussitôt connue la catastrophe du crash de l'avion de ligne ukrainien près de Téhéran mercredi, tuant les 176 personnes à son bord. La concomitance avec le tir de missile iranien quelques heures plus tôt visant deux bases américaines en Irak avait évidemment frappé les esprits. Des spéculations renforcées depuis hier après que le président américain Donald Trump, le premier, a mis en doute l'hypothèse officielle de l'erreur mécanique, rejoint en cela quelques heures plus tard par le premier ministre canadien Justin Trudeau, lequel a nommément accusé l'Iran d'avoir abattu l'appareil avec un missile. Enfin hier soir, c'était au tour de son homologue britannique Boris Johnson d'invoquer un ensemble de renseignements confirmant un tel scénario. De son côté, Téhéran, par la voix de son responsable de l'aviation civile, continue de balayer l'hypothèse d'un tir iranien. Ce qui est certain, c'est que les difficultés pour éclaircir les circonstances exactes de cette catastrophe sont aujourd'hui multiples. Tout d'abord parce que cela s'est produit en pleine nuit et ensuite en raison évidemment du contexte géopolitique très tendu. En l'occurrence, la question se pose de savoir si l'avion de ligne aurait pu être la cible involontaire des systèmes de défense aérienne au moment même où les forces iraniennes étaient en état d'alerte maximum après leurs attaques contre des positions américaines en Irak. Bertrand Galichet, bonjour.
Bonjour Thomas.
Alors je le disais, Téhéran pour leur nie catégoriquement l'hypothèse d'un tir de missile, même accidentel, et invoque pour cela des raisons scientifiques. En clair, Bertrand, bien que le cas échéant, l'impact aurait a priori dû faire exploser l'appareil, ce qui n'est pas le cas.
Oui, parce que même si la possibilité d'un tir de missile est catégoriquement exclue par l'Iran, cette hypothèse ne peut être écartée d'un revers de main. Plusieurs indices permettent au moins de poser la question. Il y a d'abord cette vidéo mise en ligne et authentifiée par le New York Times qui montrerait un missile toucher un avion près de l'aéroport de Téhéran. Ensuite, il y a effectivement les déclarations du Canada et du Royaume-Uni pointant du doigt un missile iranien, tandis que Washington exprime des doutes sur un simple problème technique qui aurait causé la perte de l'appareil. Interrogé ce matin sur France Info, le général Patrick Charex, ancien commandant des forces aériennes stratégiques françaises et ancien pilote de chasse, penche lui aussi pour la thèse du missile.
Le pilote, à un moment, fait demi-tour. Ça veut dire que le missile toucherait un de ses réacteurs, parce que le Boeing 737 en a deux. Ce qui serait intéressant dans la boîte noire, c'est d'écouter les échanges radio qu'il y a eu. Mais ce qui est sûr, c'est que l'équipage peut pas se rendre compte immédiatement que c'est un missile qui lui tombe dessus. Lui, il voit des voyants rouges s'allumer, il voit un voyant en feu. Donc, il a sans doute, effectivement, l'information d'un réacteur qui est en panne.
Hypothèse qu'il faudra étayer dans les prochains jours si l'Iran accepte, comme il l'affirme, de laisser les Occidentaux enquêter sur les causes du crash. D'ici là, les Iraniens ont le temps d'intervenir sur les lieux de la catastrophe, donc les enquêteurs devront regarder avec circonspection ce qui leur sera montré, car le contexte interroge. La défense anti-aérienne de l'Iran était en alerte après les tirs de missiles iraniens sur deux bases américaines en Irak. A-t-elle commis une bavure? Une question majeure à laquelle les boîtes noires du Boeing pourraient apporter une réponse.
Merci Bertrand Galichet. Alors cette catastrophe aérienne est aujourd'hui la plus meurtrière impliquant des Canadiens depuis l'attentat contre un Boeing 747 d'Air India. C'était en 1985. Et bien évidemment, au-delà des pertes déchirantes pour les familles des victimes, c'est toute la communauté iranienne au Canada extrêmement importante, la plus importante même hors d'Iran après Los Angeles, qui a été frappée de plein fouet par ce crash. C'est le cas en particulier à Toronto, comme a pu le constater sur place notre envoyé spécial Grégory Phillips.
Au bord des larmes, il ne s'arrête plus de parler de son ami, le docteur Fari, qui est morte mercredi matin dans le crash de cet avion, 6 minutes seulement après le décollage. Erfan vit à Toronto depuis 7 ans et comme beaucoup dans cette communauté irano-canadienne, il a été dévasté quand il a entendu le Premier ministre Trudeau expliquer que c'était sans doute un missile iranien qui avait causé la mort de son ami et de 175 autres personnes. J'accuse les politiciens, que ce soit Donald Trump ou les dirigeants iraniens. Ils sont dans leur beau bureau, ils prennent des décisions et à la fin, c'est le peuple qui est affecté par ces choix. Tout ceci a débuté la semaine dernière après la mort de ce général iranien, tué en Irak par les Américains. L'Iran a voulu riposter et c'est à ce moment-là que l'avion a été touché. Il y a différentes versions pour expliquer ce crash. Moi, je ne sais pas. J'ai l'impression que chacun cherche à se justifier. Je ne sais pas, mais le plus important, c'est que nous avons perdu tous ces gens-là. Comme le gouvernement canadien, ces Iraniens de Toronto veulent connaître la vérité. Ils attendent une enquête internationale, complète et approfondie.
Au Venezuela, Juan Guaido veut relancer la bataille de la rue cette semaine à l'issue d'une journée houleuse. L'opposant a finalement réussi à prêter serment comme président du Parlement. Pour cela, il lui aura tout de même fallu se frayer un chemin jusqu'au perchoir qu'occupait jusque-là Luis Parra, son rival de l'opposition, qui revendique lui aussi la présidence de l'Assemblée. En quittant l'hémicycle, ce dernier avait d'ailleurs coupé l'électricité, de sorte que la prestation de Juan Guaido s'est déroulée dans l'obscurité. Une victoire à l'arracher donc, mais surtout une victoire symbolique sur le chavisme, puisque non seulement le président élu Nicolas Maduro continue à exercer le pouvoir, et que l'armée par ailleurs reste toujours fidèle au régime. Quoi qu'il en soit, Juan Guaido cherche désormais à profiter de la situation pour relancer la pression populaire en convoquant des assemblées de rue. C'est un reportage signé de notre correspondant Benjamin Delisle.
Dans le quartier de Los Ruices, quelques dizaines de chaises en plastique sont installées sur le trottoir. Deux députés sont là pour discuter avec les habitants, les appeler à se mobiliser aux côtés de Juan Guaido. Un pari risqué car les dernières manifestations de l'opposant n'ont pas attiré grand monde. Mais Manuel Bolivar y croit.
Sans aucun doute, il y a de la fatigue, il y a de la douleur, du désespoir à cause de la crise économique, des proches qui sont partis. Mais pour renverser ce système, il faut faire pression. Si on ne bouge pas et de l'intérieur et de l'extérieur, rien ne va changer.
En face d'elle, à peine plus d'une centaine de personnes l'écoutent. Josefina, une retraitée, dit tout de même reprendre espoir.
Bien sûr qu'on est souvent déçu après tant de luttes sans résultat. Mais avec ce qui s'est passé, la police nationale bolivarienne qui bloque des députés d'opposition, les gens se rendent compte que ça n'a pas de sens.
Antero est un habitant du quartier qui ne pensait plus sortir dans la rue. Ce qui le remotive, c'est d'avoir vu les élus d'opposition forcer le barrage policier à l'Assemblée mardi.
Ils ne voulaient pas que Juan Guaido prête serment comme président de l'Assemblée nationale et il a pu le faire. Malgré la pression de la garde nationale, nos députés ont ouvert la porte et c'est un grand espoir. Ça motive les gens.
Reste qu'après des mois de manifestations sans succès, Juan Guaido va devoir redoubler d'efforts pour remotiver les Vénézuéliens. Et il n'a pas le choix s'il ne veut pas disparaître du paysage politique.
La Chine enverra son premier ministre à Washington la semaine prochaine pour signer l'accord préliminaire censé mettre fin à la guerre commerciale entre les deux premières puissances de la planète. La confirmation a été donnée hier par Pékin. Emmanuel Macron rencontrera aujourd'hui pour la première fois les 150 Français de la Convention citoyenne sur le climat qui attendent de savoir ce que le président fera de leur future proposition pour lutter contre le réchauffement climatique. Voilà 4 mois maintenant que cette convention, exercice inédit de démocratie participative en France, lancée au printemps dernier par le chef de l'État en réponse au grand débat national né de la crise des Gilets jaunes, planche donc sur les moyens de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et pour en parler avec nous, invité de la rédaction aujourd'hui, Anne Davidian, chercheuse à la Fondation européenne Evans, spécialiste de la démocratie participative et de l'intelligence collective en direct et en duplex du CESE. Bonjour madame.
Bonjour.
Et à vos côtés pour vous interroger, Véronique Robérande. Bonjour Véronique.
Bonjour.
Alors précisons madame Davidian que vous ne participez pas directement donc à cette convention. Vous êtes là en tant qu'observatrice, au même titre d'ailleurs que nombre d'autres chercheurs. En quoi est-ce intéressant? Est-ce qu'une convention comme celle-là nous dit quelque chose de notre démocratie?
Oui, tout à fait. En fait, ce que nous cherchons plus précisément avec ce projet, c'est vraiment interroger cet outil de l'Assemblée, son potentiel, ses effets, ses limites. C'est-à-dire comprendre comment les gens qui pensent différemment, avec des intérêts divergents, voire conflictuels, la pluralité en somme, arrivent à articuler ensemble une pensée, de s'accorder en fait, avec et justement grâce à ces différences, de produire ce que certains appellent l'intelligence collective. Et cette intelligence collective n'est pas simplement une agrégation font des opinions comme un simple sondage ou encore une suite de monologues de ceux qui ne s'écoutent pas. Mais c'est quelque chose de plus ambitieux. C'est une possibilité de penser à plusieurs têtes, avec des analyses, des perspectives différentes, voire de changer d'avis, de faire des compromis qui ne se soldent pas par une sorte de consensus sans enjeu, de l'eau tiède, mais qui propose des solutions aux problèmes publics. Et en somme, il s'agit de délibérer collectivement. C'est le mot. En fait, c'est l'exercice qu'Aristote considérait comme un vrai exercice démocratique. Et c'est pour cela qu'il faut qu'on soit très attentif, non seulement en tant que chercheur, mais aussi citoyen, puisque ces modes de prise de décision politique ont le potentiel de changer notre manière traditionnelle de faire la politique.
Une question, pourquoi est-ce important de faire une assemblée sur l'écologie? C'est un sujet, effectivement, on peut imaginer d'experts, à première vue très technique. Qu'est-ce que peuvent apporter des citoyens ordinaires, en fait?
Mais il s'agit justement d'une question démocratique, puisqu'il y a une prise de conscience aujourd'hui que les mesures importantes ou, disons, sérieuses vont certainement affecter nos modes de vie, notre modèle économique, nécessiteront des investissements importants, donc une réaffectation de fonds publics. Et décider sur les changements de modèle de société, c'est l'affaire des citoyens, c'est une affaire démocratique. Et nous pouvons d'ailleurs penser que puisque cette transition difficile doit absolument recueillir une adhésion publique, la Convention sert justement à produire ce consentement, cette légitimation des politiques et des choix qui ont été probablement déjà définis ailleurs. Mais je pense que c'est une manière un peu sceptique et trop étroite de voir les choses, puisque les participants de la Convention l'ont compris aussi. Ils peuvent s'affranchir d'une quelconque commande subliminale de gouvernement, s'il y en avait, pour se saisir de la question réellement.
Alors, elle est loin d'être terminée, hein. Cette convention, elle a même été prolongée au mois d'avril. Dans vos premières observations, il est un peu trop tôt, bien sûr, pour faire bilan, mais on voit que les citoyens se sont réellement saisis de la question. Ils ont même demandé d'autres intervenants, ils ont demandé plus de temps. Donc, c'est intéressant. Vous trouvez que c'est encourageant et que ça montre un petit peu aussi la maturité de la population, voire leur inquiétude, évidemment.
Exactement. Oui, c'est ce qui est vraiment important de relever, c'est que ils sont pas simplement contentés de se mettre docilement à trouver des solutions aux questions politiques, mais ils ont vraiment élargi leur champ d'action. Ils sont penchés sur les fins, sur les objectifs et sur le dispositif lui-même. Vous avez en effet mentionné qu'ils ont réfléchi sur le format, sur la durée, et puis ils sont emparés aussi de la question cruciale des experts à auditionner. Quelles voix ont été exclues, par exemple, en demandant d'auditionner telle ou telle personne. Et cela prouve en effet pas seulement un engagement, mais aussi cette maturité politique que vous avez évoquée, c'est-à-dire les gens sont tout à fait prêts à véritablement rentrer dans le jeu politique.
Est-ce qu'ils pourraient même être plus radicaux, j'allais dire, que des parlementaires? Est-ce que quand on s'intéresse à ce sujet-là, on voit bien qu'il faut aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite? C'est un peu le risque, j'allais dire, peut-être aussi d'opposer finalement le peuple aux élus demain, qui est une contrainte un peu trop forte sur le législateur, justement.
Alors, ce qui est intéressant avec les assemblées citoyennes, c'est que cette délibération collective, elle a tout à fait une autre logique aussi, et elle ne répond pas nécessairement aux politiques partisanes, aux jeux de politique partisane. Donc, elle a un potentiel vraiment à arriver à articuler une décision intéressante et qui sera en effet porté aussi par la population. Mais cette idée d'opposer les élus vous savez, dans un pays de plusieurs millions d'habitants, la démocratie représentative sera toujours un modèle opérant. Donc, même si dans sa version actuelle, elle apparaît dysfonctionnelle, d'où ce besoin de pouvoir recourir à la démocratie participative pour retrouver l'adhésion et la légitimité. Mais je pense qu'il faut plutôt penser, c'est plus intéressant de penser aux complémentarités plutôt qu'à une opposition entre les citoyens et les élus. Et d'ailleurs, il y a des exemples très intéressants. Par exemple, des assemblées mixtes citoyens-élus donnent plutôt de très bons résultats. Et puis, il y a aussi des collaborations entre les deux chambres, des élus et des citoyens, comme par exemple une expérience maintenant en cours dans la communauté germanophone en Belgique.
Est-ce qu'il y aurait quand même une grosse déception du côté des participants, des 150 participants? On l'entend, qu'ils ne soient pas entendus au final. Ça peut être une possibilité aussi.
Oui, comme vous savez, la promesse du président, c'était que les propositions seront soumises sans filtre au Parlement ou au référendum. Et d'ailleurs, les participants ont demandé d'être accompagnés par un groupe technique d'appui pour évaluer leurs propositions de point de vue juridique, écologique, pour aboutir aux propositions vraiment sérieuses. Et sauf de vouloir être un grand manipulateur, ce sera difficile d'ignorer les propositions d'une convention qu'on a conviée précisément. Et d'ailleurs, les participants aujourd'hui se réunissent plus tard pouvoir pour penser à une forme en fait à donner à la suite pour pouvoir justement surveiller ce qui va se passer avec les propositions après.
Très bien, Anne Davidian, merci.
Merci Anne Davidian, chercheuse, je le rappelle donc à la Fondation European Events d'avoir répondu à notre invitation en direct et en duplex du CESE. Merci également à Véronique Robérot ainsi qu'à Eric Andra pour les moyens techniques. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi, excepté quelques éclaircies de la Bretagne aux plaines d'Aquitaine puis de la Normandie à la Flandre, de même que sur le Languedoc-Roussillon. Partout ailleurs, le ciel restera encore bien couvert, ponctué de pluie ou d'averses. Quant aux températures, elles afficheront généralement entre 8 et 13 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Brice Garcia et à 18h, vous avez rendez-vous avec Benoît Bouscarel pour le prochain journal de la rédaction.